Bonjour à chacune et chacun, derrière vos masques ou pas. Et puis, on va continuer avec le sujet de l'été. J'ai été, surpris, agréablement surpris, de voir que plusieurs d'entre vous ont fait leur devoir d'été. Moi, rien que le mot, je ne sais pas si je serais arrivé à le faire, hein, devoir d'été. Non, mais c'était, on avait commencé ce thème sur être un disciple, faire des disciples avant les vacances. Et puis ça a été repris par certains pendant que j'étais pas là. J'en ai reparlé dimanche dernier, avec notamment l'histoire de Pierre à qui Jésus dit « Toi, suis-moi, hein, être un disciple du Christ, c'est ça, c'est suivre le Christ. » Et j'avais mentionné les deux versets de Romains 12, 1 et 2, sur lesquels on va s'arrêter un petit peu ce matin et en voir d'autres. Alors je commence en vous les lisant. Donc Paul écrit à des croyants de la ville de Corinthe, et il leur dit ceci. Je vous invite donc, alors il y a écrit frère, mais il faudrait dire sœur et frère, hein, le terme parle des deux, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Alors tout d'abord, le début de ce texte dit « Je vous invite donc, hein, frères et sœurs, sœurs et frères ». C'est une invitation, c'est une chose qui est constante avec Dieu. Dieu invite, Dieu propose, Dieu nous offre, Dieu nous met à disposition. Il ne nous force pas, jamais. Peut-être que ça serait plus simple s'il le faisait, même c'est sûr que ça serait plus simple. Il ne l'a pas voulu, il ne le veut pas. C'est une des nombreuses raisons pour lesquelles nous n'avons pas, nous non plus, le droit de forcer qui que ce soit à faire quoi que ce soit, hein, puisque Dieu lui-même ne le fait pas. Mais c'est important de savoir ça. Pourquoi ? Parce que ça engage notre responsabilité. Si on était dans un système de croyance où Dieu fait ce qu'il veut et puis donc ce qu'il veut va s'accomplir avec nos vies. Alors oui, Dieu a un but général pour notre planète et puis il va y arriver d'une façon ou d'une autre. Enfin, il a son plan là-dedans. Mais chacun d'entre nous, nous sommes libres, dans les circonstances que nous n'avons pas choisies, mais nous avons une possibilité de choix, et c'est important de réaliser à chaque embranchement de nos décisions, nos vies peuvent être d'une façon ou d'une autre, et ça affecte d'autres personnes, etc. Donc il y a un nombre incalculable de possibilités de ce que le monde pourrait être ou aurait pu être, etc. etc. Hein. Mais ce que j'en retire pour moi, c'est la responsabilité qui est la mienne. Alors pas de vivre dans la peur constante, est-ce que là je fais la volonté de Dieu ou pas tout le temps ? C'est pas ça. Hein. Mais en même temps de se dire, Dieu m'invite, est-ce que dans cette journée, est-ce que dans ma vision de ma vie, est-ce que dans ma démarche générale pour organiser ma vie, est-ce que je le vis comme une réponse à l'invitation de Dieu ? Ou est-ce que moi je fais mes plans et j'invite Dieu à venir s'occuper de mes affaires et à les bénir, hein ? Alors c'est pas quelque chose de nouveau, on le sait, mais moi j'ai besoin de me le rappeler régulièrement parce que comme tout le monde, je fais mes plans et puis je dis à Dieu signe. Et Dieu dit moi je te propose deux choses, je t'invite à signer là et moi je remplirai après. Mais il m'invite, hein ? Et puis souvent je l'évite, mais voilà, on devrait répondre à l'invitation. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu. On voit que Paul, c'était pas un tendre romantique, rêveur, hein, mais il leur dit pas à cause de la toute-puissance de Dieu, parce que sinon il va vous foudroyer, etc. Dieu pourrait le faire. Mais il sait que le seul moteur capable de nous transformer, de nous changer, de nous faire considérer les invitations de Dieu, c'est sa grâce, c'est son amour, c'est sa bienveillance, c'est sa tendresse, c'est sa gentillesse, c'est sa douceur. Parce que la peur de Dieu, alors je sais que l'Ancien Testament parle de la crainte de l'Éternel, qui veut dire être conscient de qui il est. Oui, Dieu est Dieu, c'est pas mon copain, c'est pas mon pote, il peut tout, il est grand, il est parfait, il est saint. Je suis conscient de ça, et en même temps que je suis conscient de ça, je comprends que ce Dieu-là, qui pourrait juste faire et j'existe plus, a décidé de me traiter avec grâce, avec amour, avec gentillesse, et sans oublier qui il est, c'est cet aspect-là qui peut me transformer. Pourquoi ? Ben parce que pendant quelques milliers d'années, avec Moïse, Abraham, David et tous les autres, hein, on a vu que juste la peur de Dieu, ça ne fonctionnait pas. Hein. Alors, on n'oublie pas qui il est, on ne transforme pas Dieu en un petit bichon frisé gentil qui est là, c'est mon copain, il est mignon. Non, Dieu est Dieu, et oui, on pourrait trembler devant lui, et ce qui est fantastique, c'est qu'il nous invite, alors qu'il est tout puissant, et il nous invite en nous motivant par sa grande bonté, par son amour, par sa compassion. Ce qui devrait encore plus nous encourager à répondre à son invitation. Mais nous sommes, nous, les êtres humains, tellement tordus que nous avons tendance à ne pas trop respecter les gens qui sont gentils. On obéit plus facilement à quelqu'un qui est un peu dur, un peu. Il y a des conséquences, ça va paf, paf. Voilà. S'il n'y avait pas la police et des amendes, est-ce que je m'arrêterais à tous les feux rouges ? Je ne crois pas. Alors que c'est pour moi qu'il ne faut pas que je me prenne une voiture dans la figure. Quoi. Et on est comme ça. Quoi. Et pourtant, on doit découvrir cette autre façon de fonctionner, de prendre le temps de répondre à l'invitation de Dieu. Et on va voir que ce n'est pas simple. Enfin, c'est simple, mais c'est compliqué pour nous. Et à lui offrir. Donc la réponse à une invitation, c'est d'offrir. Dieu ne nous prend pas. Et quand je lui donne, je dois lui offrir. Normalement, si on fait les choses correctement, quand on offre quelque chose à quelqu'un, il en fait ce qu'il veut. Ma grand-maman, qui était assez directive, et qui commençait toujours ses phrases en disant « Sans te commander, est-ce que tu pourrais ?» Et ça voulait dire « Il faut absolument que tu fasses ça, elle aurait pu être suisse. » Et puis, souvent, quand elle faisait un cadeau pour un anniversaire, quand j'avais 10 ans ou comme ça, elle me donnait 10 francs. Puis elle me disait, tiens, c'est un cadeau, c'est pour toi. Ça serait bien avec ça que tu t'achètes. Hein? Voilà. C'était un cadeau, mais je devais faire avec ce qu'elle voulait que je fasse avec. Quoi. alors que, quand on offre, bah, la personne fait ce qu'elle veut du cadeau. Elle n'en fait rien si elle veut. Elle peut le donner à quelqu'un d'autre. Elle peut s'en servir. Elle peut... Le jeter, c'est pas très gentil, mais elle a le droit. Hein. Donc Dieu nous invite, et ce qu'il attend, c'est que nous lui offrions nos vies. Mais nous, on est un peu comme ma grand-maman. Hein. J'offre ma vie à Dieu et je lui dis, Seigneur, je te donne ma vie pour que tu en fasses ça avec. Je dis, mais tu me l'offres ou tu me l'offres pas ? Eh oui, je te l'offre, mais je veux que tu me... Et je voudrais que tu me conduises là et que tu fasses ça et que tu... Alors tu ne me l'as pas offerte. Hein. Il ne se vexe pas, il est patient. Mais c'est ce genre de relation qu'il veut développer avec nous. Je vous invite et offrez-moi. Parce que lui s'est offert pour nous, et puis il a donné tout ce qui était possible de donner sans condition. Hein. Alors s'il y a tant de pourcents d'humains qui répondent « je vais aller à la croix », mais s'il y a moins d'un certain pourcentage, ce n'est pas rentable, donc je ne le ferai pas. On balaye tout et on refait de nouvelles créations. Non, il a donné pour tous, et puis chacun répond comme il veut. Hein. Donc voilà, on progresse à lui offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Alors ça paraît bizarre parce que bien sûr Paul a en tête toutes les traditions et les rites de l'Ancien Testament. Le but d'un sacrifice, c'était de le tuer et puis de l'offrir. Et là, il y a cette espèce, encore une fois, de paradoxe apparent, un sacrifice vivant. Et c'est très intéressant parce que ça renforce encore l'idée que j'essaie de développer là, l'invitation, la réponse en s'offrant et un sacrifice vivant. Il n'y a rien de plus triste, de plus dramatique, et à l'époque où j'étais missionnaire en Roumanie et où je fréquentais encore des réunions remplies de... entre guillemets professionnels, missionnaires ou autres, hein. Il y avait une chose qui m'horripilait, c'est les gens qui étaient là en se plaignant de « Ah, c'est difficile, on a tout laissé pour Dieu, mais c'est dur, mais c'est... » Ça, c'est pas un sacrifice vivant, ça, c'est un sacrifice qui pue le cadavre, quoi. Mais si tu n'avais pas envie de cette vie-là, mais fais autre chose. Qui t'a obligé à faire ça? C'est un privilège de faire ce que tu fais. En plus, tu as tout le temps de le faire et tu peux le faire parce que des gens qui, eux, travaillent, te donnent des sous pour que tu puisses le faire. C'est le privilège des privilèges. Donc, un sacrifice vivant, c'est « Ok, j'ai répondu à l'invitation de Dieu, je lui offre ma vie et je vais vivre pour lui. » C'est magnifique. Je ne suis pas là pour me plaindre. « Ouais, je suis chrétien, c'est dur. Oh, parce que je suis chrétien, j'ai renoncé à ça. Parce que je suis chrétien, j'ai renoncé à ça. Parce que je suis chrétien, je n'ai pas pu faire ça. » Mais si tu penses que c'est mieux ça que ta vie, mais laisse ta vie et va le faire. Puis le jour où tu seras convaincu que c'est moins bien, reviens voir ce que Dieu a à t'offrir. Et je ne vous dis pas ça pour vous, je le dis pour moi. Un sacrifice vivant. Et ça change tout. Parce que souffrir pour Dieu en pensant que ah ben c'est sa volonté, alors je souffre et je le fais, il est content parce que c'est dur. Et... c'est mauvais pour nous et c'est catastrophique pour le témoignage de l'évangile. Parce que ça se sent. Hein. Vous savez, on ne peut pas cacher longtemps un cadavre. Ça pue. Cet été, j'ai pu faire pas mal de paddle, j'ai aimé ça. Et l'endroit où on a essayé d'aller, où on n'a pas pu aller à cause du vent, hein, je suis retourné deux jours après, il n'y avait pas de vent. Et puis à un moment, il y avait un petit rapide, et ben, les paddles, ce n'est pas comme les canoës, on doit, faut les porter quand il y a un comme ça. Donc je marchais sur le bord, et tout d'un coup, j'ai cru que j'allais me trouver mal, tellement que ça sentait mauvais. Et c'était fou, parce que l'endroit était idyllique, une belle rivière avec des trucs autour et tout. Hein. Mais une odeur à hurler, quoi. Et puis en fait, il y avait, je ne sais pas ce que c'était, une bestiole crevée dans des arbres que j'arrive. Et même en marchant de l'autre côté, ça puait, quoi. Voilà. Quand c'est mort, ça sent mauvais et ça se sent. Et quand on vit pour Dieu, comme ça, ouais, j'aurais mieux aimé aller à la pêche, mais je suis venu au culte. Ah, ouais, j'ai pas regardé le match l'autre soir parce qu'il y avait la réunion à la maison. Hein, mais bon, on l'a fait pour Dieu. Ah, ça sent tellement mauvais. Puis après, on va dire aux gens, vous savez, vous devriez être chrétien, c'est bien, hein. Non, ça sent mauvais. Donc, sacrifice vivant qui plaise à Dieu. Et ce sera là, de votre part, un culte spirituel. Les, d'autres traductions disaient un culte raisonnable. Dans les deux sens, c'est un peu difficile à comprendre, mais spirituel, je trouve, c'est intéressant comme traduction, même si ce n'est pas du mot à mot. Hein. Alors, je sais que dans l'action biblique, le culte, c'est le message que donne le prédicateur le dimanche matin. Donc, ça, c'est faux, je l'ai déjà dit. Le culte, c'est pas spécialement le dimanche matin, c'est pas spécialement dans un endroit particulier. Rendre un culte, hein, que ce soit à notre Dieu ou à quelque chose d'autre, c'est cette action de se tourner vers quelque chose ou quelqu'un, et là dans ce cas-là Dieu, pour lui offrir notre reconnaissance, notre adoration. Et il est question ici d'un culte spirituel. Donc le culte pour le chrétien, c'est chaque fois que dans ce désir de répondre à l'invitation de Dieu, je lui offre ma vie pour vivre avec lui et je cherche à me mettre à sa disposition pour que le miracle de cette connexion entre Dieu et moi par son esprit s'établisse. Et lorsque c'est connecté, là, je suis en train de rendre un culte spirituel à Dieu. C'est ça le culte. Alors, ça peut se passer un dimanche matin dans une salle après avoir chanté trois chants et que quelqu'un ait dit quelques mots et que, bien sûr, et on l'espère, hein, mais pas spécialement, pas exclusivement et pas particulièrement. Vivre un culte avec Dieu, ça devrait être le but de nos vies à chaque moment et on ne peut pas le vivre tout le temps. Parce qu'on est humain, parce qu'on n'est pas parfait, parce que plein de raisons, je ne sais pas. Mais c'est ce que Dieu veut de nous. Et être un disciple du Christ, en fait, c'est vivre de cette façon-là. C'est vivre avec ce désir d'être connecté à Dieu par son esprit et d'être conscient de cette connexion dans une attitude de compréhension de sa grandeur, compréhension de son amour et de sa grâce, et d'acceptation de ce qu'il voudrait pour moi, et puis de marcher là-dedans. Et lorsque toutes ces choses-là sont réunies, et que le miracle de cette connexion, qui est toujours potentiellement possible, mais dans notre expérience, n'est pas permanent, lorsque ça s'établit dans l'expérience, alors on est en train de rendre un culte à Dieu, et c'est magnifique, et puis c'est quelque chose qu'on peut vivre seul, et c'est super. Et quand on le vit à quelques-uns ou à plus, c'est encore plus beau et c'est encore plus fort parce que en même temps que je suis conscient que je suis dans cette connexion avec ce grand Dieu mais qui m'aime, et je suis conscient que mon voisin et ma voisine l'est aussi, et ça établit une autre connexion parallèle qui fait qu'on est à la fois connecté à Dieu, mais parce que l'autre est connecté à Dieu, on est aussi connecté l'un à l'autre. Et ça crée ce que la Bible appelle, c'est une expression qu'on peut considérer religieuse, mais la communion des saints. C'est-à-dire que c'est un peu comme quand vous vous connectez sur un site et puis vous avez le nombre de personnes qui sont connectées dessus. Et même si vous ne les connaissez pas, vous êtes en fait connecté avec eux. C'est exactement ce qui se passe. Et c'est pour ça que, d'une façon mystique, on peut dire, lorsque, si ce matin on est connecté réellement avec Dieu, puis il y a des gens un peu partout sur la planète, parce que traditionnellement on va souvent prendre le dimanche matin pour prendre un moment pour ça, qui sont eux-mêmes connectés, il y a l'ange qui est chargé des calculs au ciel, qui dit à Dieu, waouh, en ce moment, l'église, on est à, je ne sais pas combien de millions ou milliards de connexions en même temps, waouh, c'est cool, mon chiffre monte, Dieu n'oublie pas de faire une petite vidéo là pour les remercier parce que sinon tes followers vont pas à tous, etc. Voilà. Mais c'est une belle image pour tout ça. Alors, je vous invite, à cause de l'immense bonté de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Mathieu en avait parlé il y a quelque temps. Saint, ça ne veut pas dire sans péché, pour les humains, pour Dieu oui. Ça veut dire mis à part pour quelque chose de spécifique. Donc dans cette démarche-là de répondre à l'invitation de Dieu en s'offrant pour lui rendre un culte spirituel, ça veut dire qu'il doit y avoir de l'intentionnalité. Je suis, d'une certaine façon, mis à part pour cette rencontre-là. Et après, ça se traduit par des choses pratiques dans ma vie. Ce sera de votre part un culte spirituel. Et puis il y a le verset, le texte suivant. Paul n'a pas écrit les versets, ça continue. Il n'a pas écrit 1, 2, 3. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Après avoir expliqué le processus de comment je réponds à l'offre de Dieu en acceptant son invitation pour être connecté avec lui, Paul va s'attaquer à une problématique très très forte pour nous les humains, et qui est une des choses qui nous empêche de vivre cette offrande à Dieu, cette réponse à son invitation, donc d'être un disciple. Et c'est le fait que, bien sûr, Dieu nous a créés avec un cerveau, il vaut ce qu'il vaut, mais enfin voilà, avec la capacité de décider, de réfléchir, d'analyser. On ne l'utilise pas souvent assez d'ailleurs. Et c'est une bonne chose, et ça peut être un piège. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le choix qu'ont fait les premiers humains lorsqu'ils ont choisi l'indépendance vis-à-vis de Dieu, c'est justement de devenir leur propre point de référence. Lorsque le serpent a dit à Ève et à Adam, si vous en mangez, vous serez comme des dieux. Alors c'était un mensonge dans le sens où ils n'allaient pas devenir tout puissants comme Dieu, mais c'était une réalité. Ouais, il paraît que ça ne fonctionne pas, tant pis. Ils n'ont pas pu écouter chez eux, du coup ils sont venus ici, c'est super. on fera mieux la prochaine fois. C'est une réalité dans le sens où chaque être humain est un petit dieu sur une petite planète qui est moi, ma façon de penser. Et je suis dieu sur cette planète et je décide ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, etc. Alors c'est paradoxal parce que d'un côté on pourrait dire les êtres humains ne réfléchissent pas assez, et c'est vrai, il faudrait réfléchir plus. Mais en même temps, quand je réfléchis par rapport à moi-même, c'est-à-dire que je suis mon point de référence par rapport à moi-même, c'est aussi un piège parce que je peux être absolument sincère, honnête, convaincu d'avoir raison, et j'ai raison avec les données que j'ai établies, mais elles sont peut-être fausses. Vous savez, comme dans ces exercices de maths, quand j'étais à l'école primaire, il faut les calculer à partir, il y a tant de abricots, tant de pots de confiture, tant de machins, on met tant de sucre, et puis il y a tant de pertes, et à la fin, combien il y a de pots, et où tout s'enchaîne. Et moi, j'avais la spécialité de faire une erreur de calcul à la première question, et puis j'avais un raisonnement logique impeccable, parfait, et j'avais toujours faux à la fin, parce que j'avais fait une petite erreur de calcul au début et tout le reste était faux. Et d'ailleurs, selon les professeurs, certains me disaient, bon, tu as faux, mais je ne te compte pas tout faux, parce que ton raisonnement est parfait, tu as juste fait une erreur de calcul au début. Mais la plupart me disaient, le résultat est faux, c'est faux. Dégagé, zéro. Voilà, comme ça que je n'ai pas pu devenir un grand mathématicien, moi qui, voilà. Mais nous pouvons faire pareil. Hein. Nous avons nos prérequis, nous avons des idées dont nous sommes certains qu'elles sont vraies, parce que c'est les nôtres. Et à partir de là, nous déroulons une logique implacable. Et puis quand on nous dit qu'on a tort, on vérifie notre logique, et maintenant j'ai raison. Oui, ta logique est impeccable, mais ton point de départ n'est pas tout à fait correct. Et le résultat, donc, est faux. Et c'est pour ça que Paul dit, ne vous laissez pas modeler par le monde. Ils ont traduit monde actuel. Bah, quand on vit à une époque, c'est toujours le monde actuel, quelle que soit l'époque à laquelle on vit. Hein. Mais le monde dont la Bible parle là, ici, c'est simplement un ensemble de pensées organisées, quel qu'il soit. Hein. Donc ce n'est pas forcément un monde ou un autre, c'est un système de pensée. Et en fait, sur Terre, il y a des milliers, ou peut-être des millions même, mais en tout cas, il y a des grands courants de pensée, et la façon naturelle pour l'être humain, c'est d'adhérer à l'un ou à l'autre de ces courants, et puis de laisser dérouler là-dedans. Quoi. Et c'est pour ça que quand on discute, y compris entre amis, croyants, on n'est pas d'accord. Hein, et on peut même se disputer, parce qu'il y a cette façon de penser, et puis il y a aussi cette façon de penser, et puis il y a aussi cette façon de penser. Hein. Et si on s'approche de Dieu et qu'on lui dit « j'ai raison ou j'ai tort », on obtient la même réponse que Josué a obtenue lorsqu'il est devant Jéricho et qu'il voit un ange avec une épée à la main, il lui dit « es-tu pour nous ou contre nous ?» Et l'ange lui dit « non ». Oui, ben non. Juste, t'es pas au bon niveau, quoi. Enlève, et l'ange ajoute, enlève tes chaussures, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. En fait, devant nos systèmes de pensée, quels qu'ils soient, et le mien, j'en ai un forcément, hein, comme le vôtre, il n'y a pas de vrai et de faux. Dieu dit, vire tes chaussures et tiens-toi pieds nus, c'est-à-dire sans intermédiaire, dans ma présence, parce que ma façon de penser, elle est sur un autre plan. Elle dépasse le cadre de la... Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être rationnel en tant que croyant, hein, du tout. Hein. Mais c'est juste que y a un autre niveau dans lequel ça dépasse le vrai ou le faux. C'est juste le domaine dans lequel Dieu agit. Et c'est pour ça que dans ce courant de pensée, quelqu'un peut avoir un cœur pur et puis il fait quelque chose de bien. Et dans le courant opposé, lui aussi. Et puis nous, on voudrait dire que tous ceux qui sont dans ce courant ont tort et tous ceux-là ont raison, ou le contraire. Et Dieu dit, non, c'est pas comme ça. C'est plus compliqué que ça et c'est plus simple. Ça se passe ailleurs. Et on voit que Jésus, quand il est venu sur terre, alors là, donc, on avait une culture très particulière, le peuple juif, quelques milliers d'années d'histoire avec une culture très très forte où tout était codifié, la façon de penser était, tout avait été prévu. Quoi. Qu'est-ce qu'on fait quand une mouche morte tombe dans l'huile? Qu'est-ce qu'on fait quand la mouche est vivante si elle tombe dans l'huile? Qu'est-ce qu'on fait quand une femme a son cycle menstruel? Qu'est-ce qu'on fait quand un homme croit? Tout était prévu, tout ce qu'on peut imaginer par la loi, etc. Et puis ces gens-là essayaient ou pas de l'accomplir. Et Jésus arrive là-dedans. Et il fait une chose étonnante, parce que sans arrêt, on voulait le piéger en lui disant « Qui c'est qui a tort ou qui a raison ?» hein? Genre quand on lui amène la femme prise en flagrant délit d'adultère, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On la lapide ou pas? Parce que la loi dit, mais le reste dit. Et Jésus échappe à tous ces pièges en passant à l'étage supérieur. Et dans Matthieu 5, on a parlé un tout petit peu jeudi soir chez les Uthermann, c'est Jean-Jacques qui a amené ce texte. On ne va pas l'étudier, ça serait le boulot de quelques mois ou plus, hein, mais vous pouvez le relire chez vous. Dans Matthieu 5, à partir de verset 17 jusqu'à la fin du chapitre, on a une série d'affirmations de Jésus où il dit « Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis. » Et ce qui est incroyable, c'est qu'il annule pas ce qui a été dit, il amène plus loin. Hein. D'ailleurs, il commence en disant, verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Et ça paraît étrange parce que les chefs religieux ont toujours l'impression qu'il ne faisait pas ce qu'il fallait, quoi, hein. Il n'a pas accompli. Il dit si, j'ai accompli l'intention qui était derrière. Et j'ai été plus loin. Et donc, on prend quelques exemples au verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Il amène plus loin. Après, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur. 31. Il a été dit que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas de parjure. Mais moi, je vous dis, et puis on continue comme ça, jusque, œil pour œil, dent pour dent, moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous maudissent. Il annule pas le reste. Il l'amène à la perfection. Perfection signifiant la pleine maturité de quelque chose. C'est pas le fait de ne pas faire d'erreur. Même si, encore une fois, pour Dieu, oui, il ne fait pas d'erreur. Hein. Et le chapitre se termine avec « Soyez donc parfaits, accomplis, comme votre Père céleste est parfait. » Et en fait, ce que Dieu veut, par son esprit, c'est nous faire passer de « Vous avez entendu qu'il a été dit » Mais moi, je vous dis. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. Alors, selon notre culture, j'ai grandi ici, en Suisse, j'ai entendu dire que, je ne suis même pas conscient, j'ai entendu dire, j'ai une façon de penser qui est le résultat de l'endroit où j'ai vécu. Et je pense que j'y réfléchis, c'est logique, j'ai vérifié, c'est correct. Et Dieu dit, mais moi, je vous dis. Et c'est pareil pour un Français, pour un Espagnol, pour un Italien, pour quelqu'un qui vit au fin fond de l'Amazonie. C'était vrai au Moyen-Âge, dans l'Antiquité, ça sera vrai aussi longtemps que cette terre existera. Nous avons nos façons de penser et nous sommes modelés. Même si ma façon de vivre est une réaction à la culture où je vis, dans laquelle je vis et que je fais tout le contraire, mais c'est aussi un modelage, hein, qu'on soit en réaction ou pas. Je fais comme mes parents ou je fais le contraire de mes parents, c'est pareil. C'est pas pareil. Mais c'est pareil dans le fonctionnement. Je suis quand même modelé par un système humain. Et Dieu dit, vous avez besoin d'être renouvelé dans votre façon de penser. Vous avez l'impression que c'est comme ça. C'est tac, tac. Et c'est que ça peut être que l'un ou l'autre, et l'un exclut l'autre. Et moi, je vous dis, pouf, il y a autre chose au-dessus. Et il fait ça sans arrêt. Quand on amène cette femme prise en flagrant délit d'adultère, et encore une fois, flagrant délit d'adultère, elle est seule, donc c'est quand même particulier. Faire un adultère tout seul, il faut y arriver. Et puis c'est un piège. Hein. La loi dit qu'il faut la lapider, l'homme avec, normalement, mais enfin. Et puis, en même temps, Dieu, qu'est-ce que tu fais? Et puis, on peut imaginer que dans les gens qui étaient dans la foule, il y avait deux écoles, hein, ceux qui disaient, la loi dit qu'il faut la lapider, il faut la lapider. Ça, c'est tous ceux qui auraient bien aimé coucher avec elle, mais qui ne pouvaient pas, ils étaient jaloux. Et puis, il y avait ceux qui se voulaient cool et qui disaient, après tout, qui n'a pas déjà commis un adultère? Il faut être tolérant. Et puis, il y avait ces deux façons de penser, modeler et modeler. Et Jésus amène une troisième façon de faire. Que celui qui n'a jamais péché jette la pierre. Et puis ensuite, il va voir la dame et puis il dit, moi, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Et il résout tout. Et il répond à tout le monde. À ceux qui disaient, c'est pas grave, tout le monde l'a fait, il dit, non, c'est un péché. À ceux qui disaient « il faut la lapider », alors oui, mais je vais mourir pour ça, et puis tu as le droit de la lapider si tu es parfait, je ne peux pas. Et en même temps, à cette personne-là, il lui dit « je ne te condamne pas, et je vais t'aimer au point où tu vas pouvoir vivre une vie pure. Enfin, il ne pêche plus. » Il a tout résolu, mais ça, on ne sait pas faire, nous. Sauf si nous laissons nos pensées être renouvelées par la pensée de Dieu. Et ça m'a frappé ces derniers temps parce que on vit dans un monde qui est compliqué, qui est violent. Et puis pendant mes vacances en France, y a pas mal d'apéritifs qui se passent chez les uns, chez les autres. Et puis forcément, ça rassemble des gens de droite, politiquement de gauche, ceux qui sont pour. Il faut du social pour aider les gens parce que si les gens sont malheureux, c'est parce que la société s'occupe pas de. Et puis c'est tout à fait logique, je comprends, je partage. Puis on dit, oui, mais moi, quand j'ai commencé aussi, j'étais pauvre et j'avais rien, et parce que j'ai travaillé, j'y suis arrivé. Puis on dit, ah, ils ont raison aussi. Hein, et puis on repense à la blague avec Salomon qui était toujours en train de dire à deux personnes qui disaient des choses contraires, tu as raison, tu as raison. Et puis à l'autre, tu as raison, tu as raison. Et son conseiller lui dit, oh, grand roi Salomon, tu viens de dire, tu as raison, tu as raison, et tu as raison, tu as raison, à deux personnes qui disaient des choses contraires. Et regarde son conseiller, il lui dit, tu as raison, tu as raison. Hein? Et puis nous, en tant qu'être humain, on est là-dedans et on se dit, ouais, il a raison, mais en même temps, ils disent le contraire, comment ils peuvent avoir raison? Et Dieu dit, et si on passait à l'étage au-dessus? Est-ce que vous êtes prêts à relever le défi d'accepter mon invitation, de m'offrir votre vie, et moi, je vais vous montrer comment je vois ça. C'est ni. Enlève tes chaussures, le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Viens passer un moment avec moi, et je vais te montrer quelque chose de plus grand, de supérieur, que tu ne peux même pas imaginer. Et ça nous ramène à un dernier texte que j'aimerais vous laisser pour méditer pour les jours à venir. Et je terminerai avec. Un texte que j'aime énormément, pas parce que je le comprends, mais parce qu'il me touche toujours beaucoup. 1 Corinthiens 2, de 9 à 16. Et je vous le lis tranquillement, mais vous le reprendrez chez vous, si vous voulez. C'est une invitation. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Donc là, on parle de ces choses qui sont ni, mais au-dessus, hein. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et rappelez-vous, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier, sinon on est disqualifié. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui, il ne peut pas les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée du Christ. Ça paraît arrogant quand même quand Paul dit « nous avons la pensée du Christ ». Il n'est pas en train de dire que tout ce qu'il dit, c'est Christ qui l'a pensé. Il dit « nous pouvons avoir accès à la pensée de Christ » quand, en nous appuyant sur la parole de Dieu, nous laissons la connexion à l'Esprit Saint nous enseigner les choses de façon spirituelle et nous sortir de « il a raison ou il a tort ?» Qui c'est qui a raison ? Qui c'est qui a tort ? Hein ? Comme quand les enfants se disputent et puis qu'ils viennent voir les parents, puis ils ont tort les deux, ils ont raison. Hein ? Puis eux, ce qu'ils voudraient, c'est qu'on dise « il a raison ou il a tort ?» Et on dit « non, c'est pas ça, c'est autre chose. » Et c'est ce que Dieu attend de nous. On peut connaître la pensée de Christ sur une situation particulière, sur voilà, comment réagir, hein, comme Jésus l'a fait. Ben, nous, on n'est pas Jésus. Et c'est un combat, parce que ce n'est pas naturel. C'est tellement plus facile de s'appuyer sur notre modèle de pensée qu'on a vérifié, qui est le nôtre. On l'a éprouvé. Et à chaque fois, de se dire à Dieu, non, ben oui, je pense comme ça et je pense que j'ai raison. Mais j'aimerais accepter ton invitation de m'amener plus haut, plus loin. Dans le chapitre 13 des Corinthiens, avant de parler de cet amour incroyable, Paul leur dit « Je vais vous montrer une voie supérieure. » Il explique ça. Et c'est cette voie-là qu'on doit trouver, et c'est possible par l'Esprit de Dieu si on accepte cette invitation. Alors Seigneur, nous te demandons de nous aider à vivre de cela. Je te demande que derrière mes explications qui valent ce qu'elles valent, que tu puisses toucher nos cœurs, que tu puisses nous enseigner, que nous puissions pas juste en parler, mais le vivre, répondre à cette invitation, et même pour ça nous avons besoin de toi, de ta force, et que ça puisse être vivant, que nous puissions t'offrir nos vies et vivre avec joie dans la paix, dans la tranquillité, dans la sérénité, même si c'est difficile des fois, avec toi, dans la conscience de ta présence, et que nous sachions nous battre pour vivre ça, refuser moins, refuser juste ce qui nous a été dit pour découvrir ce que toi tu nous offres et que tu nous proposes, Seigneur. Amen.